Et les matins vont débuter, eh bien, par exemple, avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron veut en faire l'un des grands textes de son quinquennat. 57 articles pour renforcer les principes républicains et non plus lutter contre le séparatisme islamiste. Ce projet de loi et cette évolution sémantique seront présentés ce matin en Conseil des ministres. Près de deux mois après la décapitation de Samuel Paty, l'exécutif déploie une batterie de mesures contre la haine en ligne ou pour encadrer le financement des cultes.
Le gouvernement voulait interdire l'instruction à domicile. Le Conseil d'État a refusé. Il y aura donc des contrôles renforcés aux grandes dames de certaines familles, vous l'entendrez.
Au procès des attentats de janvier 2015, perpétuité requise contre le principal accusé, ses avocats demandent, eux, l'acquittement, citent l'affaire Dreyfus et l'erreur judiciaire, inacceptable pour des parties civiles qui ont quitté la salle d'audience hier.
À la une encore, America First, l'Amérique d'abord, y compris dans l'accès aux vaccins contre le Covid.
Donald Trump se tient à sa ligne politique, quitte à priver le reste du monde de doses tant que tous les Américains ne seront pas vaccinés. Et puis un geste inédit salué par le monde du football, des joueurs du PSG et du Başakşehir Istanbul ont quitté hier soir la pelouse après des accusations de racisme portées à l'encontre du quatrième arbitre, entraînant le report de ce match de Ligue des Champions.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, assurance, peut-on couvrir le risque pandémique? Je poserai la question à Luc Maillot, il est professeur de droit à l'université de Lyon 3.
Si vous menacez, intimidez, violentez un agent du service public en raison de vos croyances, vous risquerez 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. C'est l'un des délits créés par le projet de loi qui vise à renforcer les principes républicains. Ce texte, présenté ce matin en Conseil des ministres, ambitionne de fermer les angles morts de la République face au séparatisme islamiste. 57 articles, le texte a été mûri de longue date par l'exécutif. Les contours avaient été esquissés début octobre par Emmanuel Macron. Ce texte a été renforcé après la décapitation de Samuel Paty il y a près de deux mois. Antoine Marette a lu ce projet de loi pour France Culture.
C'est un projet phare de cette seconde partie de quinquennat, long d'une cinquantaine d'articles. Depuis la déclaration d'Emmanuel Macron en octobre dernier au Mureau, il y a eu des ajouts et quelques modifications. L'ajout notable, c'est l'article 25 qui prévoit un délit de haine en ligne et des sanctions spécifiques pour les pressions exercées sur des agents de l'État ou des élus. Il fait suite à l'assassinat de Samuel Paty en octobre dernier. Le professeur avait été victime d'une véritable cabale sur les réseaux sociaux après l'un de ses cours sur la liberté d'expression. La modification notable concerne la scolarité à la maison. Le chef de l'État avait annoncé son interdiction, sauf raison médicale. Le texte présenté tout à l'heure sera plus souple. Il étend les exceptions possibles, le sport, le handicap ou encore pour les gens du voyage. Il se contente donc d'encadrer plus strictement la scolarité à domicile. Les parents devront obtenir une autorisation préalable auprès du rectorat.
Et ce projet de loi confortant les principes républicains empiète sur notre liberté, estiment certaines familles qui ont prévu de manifester aujourd'hui, notamment devant le rectorat à Lyon. Lyon, où Mathilde Imberti a rencontré ses défenseurs de l'instruction à domicile. Reportage.
Ici, c'est nos classeurs, nos cahiers.
Liv et Amy, 13 et 11 ans, étudient dans le salon depuis toujours. Le confinement, à ce titre, n'a rien changé pour elles. Maître mot, l'autonomie.
Voilà, j'ai une liste de mes objectifs. J'ai décidé d'écrire un manga, enfin une BD. J'ai aussi le cours d'anglais de jeudi que je dois travailler. En général, on ne fait pas de programme en avance et on choisit ce qu'on veut faire sur le moment. Il y a des jours où je suis en mode oh ouais, c'est cool les maths, et d'autres où je me dis que c'est trop nul les maths. C'est faire en fonction de nos envies.
Un impératif posé par l'éducation nationale, atteindre les objectifs de fin de cycle. Les contrôles ont déjà été renforcés par la loi Blanquer de 2019. Ève la maman.
Après, c'est vrai que moi, j'ajoute un petit peu mon grain de sel parce que je regarde un peu ce qui est demandé. Une fois par an, un inspecteur vient à la maison, donc on est quand même très contrôlé.
Et le projet de loi imposerait en plus d'obtenir une autorisation d'instruire ses enfants hors de l'école. Benoît le papa ne comprend pas qu'on leur mette des bâtons dans les roues.
On entend plein d'horreurs comme quoi on est une fabrique de terroristes, on a des enfants fantômes, enfin on a juste fait un choix pédagogique différent, mais on a des enfants à qui on apprend les valeurs, ils vivent avec les autres, on comprend à peine en fait ce qui nous tombe dessus.
Comme les Herman, un peu plus de 60 000 enfants en France s'instruisent en famille sans jamais fréquenter un établissement scolaire.
Et s'il n'est plus question de de séparatisme ou d'islamisme dans ce projet de loi présenté en Conseil des ministres. Texte qui veut renforcer les principes républicains. Le glissement sémantique se veut positif. Plutôt pour que contre, choix diplomatique également, avec la crainte que la formule de séparatisme islamiste ne soit mal comprise à l'étranger, prise comme une stigmatisation des musulmans dans certains pays, jusqu'aux États-Unis. Un responsable de l'administration Trump a fait part de son inquiétude hier vis-à-vis de la liberté religieuse en France. On y revient dans le journal de 8h.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Après le réquisitoire des avocats généraux, l'heure des premières plaidoiries hier au procès des attentats de janvier 2015.
A commencer par celle d'Ali Riza Polat, le principal accusé parmi les 11 présents à l'audience et contre qui les représentants du parquet national antiterroriste ont requis hier la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour complicité de crimes terroristes, compte rendu de Florence Turme.
Une enquête peut soulever des hypothèses, mais un procès ne peut pas reposer sur des approximations. Antoine Van Rie pointe une accusation qui aurait fabriqué un costume trop grand à son client. Cet homme, responsable de tout, dit-il, y compris de complicité de crime avec les frères Kouachi. Comment peut-il être complice de personnes qu'il n'a jamais vues? Ali Polat, paniqué comme un novice qui demande 800 euros à sa mère pour un billet d'avion le 9 janvier. Un logisticien aurait eu l'idée de partir avant les attentats, comme l'ont fait les trois autres accusés passés en Syrie. Il veut parler des frères Belloucine et d'Ayad Boumediene, la compagne d'Amédi Koulibaly, contre laquelle le parquet a requis 30 ans de réclusion criminelle. Et la police attend 60 jours pour arrêter le soldat de l'homme qui a fait trembler la France, s'exclame encore l'avocat. Oui, il est musulman, mais pas radical. On a construit une image de Monsieur Polat, on l'a imaginé en terroriste, mais vous pouvez aussi, vous magistrat, dire que vous doutez. Sa consœur Isabelle Coutempère reprend alors la parole, se risque à évoquer l'affaire Dreyfus, l'erreur judiciaire. Plusieurs avocats de la partie civile quittent la salle pendant qu'elle conclut. Je vous demande évidemment de l'acquitter.
Et les plaidoiries de la défense vont maintenant se poursuivre jusqu'à lundi. Le verdict est attendu le 16 décembre, procès des attentats de janvier 2015. Chronique judiciaire à retrouver sur franceculture.fr. On ne peut pas admettre qu'un ancien président oublie la République. Le parquet national financier a requis hier 4 ans de prison, dont 2 fermes à l'encontre de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. À l'issue de près de 5 heures de réquisitoire, un réquisitoire méthodique et aride, le procureur financier a demandé les mêmes peines pour l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et pour Thierry Herzog, avocat historique de Nicolas Sarkozy. Une autre affaire concernant l'ancien chef de l'État. Après Claude Guéant et Nicolas Sarkozy, l'ancien ministre Brice Hortefeux a à son tour été mis en examen hier pour association de malfaiteurs dans l'enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Au Sénégal, nous vous en parlions hier, un tribunal a condamné à 2 ans de prison, dont 1 mois ferme, 3 pères de famille qui avaient fait embarquer leur fils dans une pirogue en partance pour l'Europe. L'un est mort en mer. Camille Magnard y revient dans sa revue de presse internationale après le journal de 7h30.
Mais en attendant, il est 7h08 et c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Poissons et crustacés au menu ce soir du dîner entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
Un poisson, si ce n'est dans l'assiette du moins dans les discussions, la pêche, l'un des derniers dossiers sur la table du Brexit. Alors que la période de transition s'achève à la fin de l'année, le risque d'un no deal, l'absence d'accord pour régir les futures relations entre le Royaume-Uni et les 27, pousse donc les négociateurs en chef à se voir en personne à Bruxelles. L'enjeu est de savoir si chaque parti accepte d'infléchir sa position, de trouver des compromis, même en privé. Alors, les discussions techniques pourront avancer à la veille d'un sommet européen consacré notamment au Brexit. Le Brexit au occasion de revoir la politique commune de pêche, c'est ce que clament certains pêcheurs et des défenseurs de l'environnement, alors que depuis lundi, 8 chalutiers géants mesurant entre 80 et 120 mètres pêchent au large de Fécamp avec une capacité de 200 tonnes par navire. C'est tout à fait légal, mais pour Thibaut Josse, chargé de mission de l'association Pleine Mer, eh bien, ce modèle économique de pêche est désormais caduque.
C'est des chalutiers qui sont tous sous capitaux néerlandais, mais avec des pavillons français, allemands et anglais. Parce qu'en fait, les Hollandais ont une technique pour s'approprier un peu les quotas de différents pays d'Europe, c'est qu'ils rachètent des armements dans différents pays. Donc en France, l'exemple typique, c'est France Pélagique, qui a été racheté par l'armement Cornelis Vrolijk. Et donc, il appartient à une entreprise néerlandaise, mais les bateaux battent le pavillon français et les bateaux travaillent sur des quotas français. Donc ça permet en fait à des gros industriels hollandais de s'approprier les quotas de pêche français. Et les pêcheurs artisans, ce qui leur pose problème, c'est que de un, on s'accapare des quotas aussi énormes qui pourraient être répartis sur plein de petits bateaux en France, et de deux, ça impacte énormément la ressource et la totalité de l'écosystème. Donc c'est pas de la jalousie mal placée, c'est vraiment que ce modèle de pêche, en fait, pour eux, ne devrait pas exister.
Thierry Josse, chargé de mission de l'association Pleine Mer, il répondait à Amélie Bonté. Aux États-Unis, l'autorité de régulation des médicaments devrait d'ici la fin de la semaine autoriser la circulation du vaccin mis au point par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech. Avec ce feu vert définitif, les autorités espèrent pouvoir vacciner 20 millions d'Américains d'ici la fin de l'année. Cette vaccination, un enjeu politique crucial pour le président sortant Donald Trump et pour le président élu Joe Biden. Tous deux ont rappelé hier soir leur stratégie plutôt différente pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les précisions à Washington de Gregory Phillips.
Alors que le pays vient de franchir la barre des 15 millions de personnes contaminées et 285 000 morts, Joe Biden prend la parole depuis Wilmington, dans le Delaware. Le président élu promet que dès son premier jour à la Maison-Blanche, il rendra le port du masque obligatoire partout où cette décision dépend du gouvernement fédéral, explique que sa priorité sera le retour des enfants à l'école et que dans les 100 premiers jours de son mandat, 100 millions d'Américains seront vaccinés. Exactement à la même heure, Donald Trump a monté une conférence de presse à la Maison-Blanche pour faire un bilan de l'opération Warp Speed, vitesse de l'éclair. Même les gens qui ne sont pas des fans de Trump, dit le président sortant, reconnaissent que c'est l'un des plus grands miracles de l'histoire de la médecine. Les laboratoires américains ont été les premiers à produire un vaccin fiable. Ensemble, nous allons battre ce virus, terminer la pandémie et sauver des millions et des millions de vies ici et dans le monde. On a déjà commencé. Donald Trump triomphant, mais son administration n'a commandé pour l'instant que 100 millions de doses de vaccins pour un pays qui compte 330 millions d'habitants.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Comme un écho aux questions raciales aux États-Unis, dans une toute autre mesure certes, mais c'est un geste inédit qui a été salué hier par le monde du football. Des joueurs du Paris Saint-Germain et du Başakşehir Istanbul ont quitté hier soir la pelouse après des accusations de racisme portées à l'encontre du quatrième arbitre qui se tient au bord du terrain, entraînant le report du match de Ligue des Champions. Cette interruption du match par les joueurs, c'est un signe que les temps changent, estime Jérôme Alonso, ancien gardien du PSG et de Saint-Étienne.
Ça y est, il y a une avancée. Les joueurs se sont révoltés. On a été contre la machine. Ça y est, on n'a pas laissé passer. Donc évidemment, révoltés contre cet arbitre, je devrais même dire contre ces arbitres, mais aussi très heureux et très fiers de ma corporation parce que enfin les joueurs sont montés au créneau, les joueurs ont décidé ensemble de commettre un geste fort, un geste qui reste, un geste qui marque déjà la planète entière et pas seulement la planète football. Donc heurté oui, mais également très 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 heureux et très fiers qu'enfin les choses bougent.
Jérôme Alonso, ancien gardien du PSG. Le temps de ce mercredi 9 décembre, marqué par un peu de neige à l'est et sur les Pyrénées, de la grisaille au centre, de la pluie à l'ouest. Au meilleur de la journée, il fera entre 2 et 13 degrés du nord au sud, Guillaume Herner.
Merci beaucoup Catherine Dutudon. Dans quelques instants, à 7h25, le reportage de la rédaction nous emmènera en Turquie avec des chercheurs turcs qui ont consacré leur carrière à l'étude des relations à l'Europe. Il se pose aujourd'hui beaucoup de questions et dans quelques secondes, la question du jour, peut-on couvrir le risque pandémique ?